le témoignage de l'été.
Qui vous est présenté par Louis Dauphresne. C'est aussi l'un des visages de la déchristianisation. Le vide laissé par l'Église se remplit de pratiques occultes qui rencontrent un réel succès. Et il est assez surprenant que l'Église, à laquelle les réalités invisibles ne sont pas étrangères, soit si peu loquace sur ce sujet et n'appelle pas davantage à la prudence. Le père Dominique Ausnet est prêtre exorciste et il constate les ravages humains et spirituels que provoque à la longue la fréquentation de l'occultisme. Et il le dit dans un ouvrage intitulé « Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte » publié chez MAM. Et il ne s'agit pas juste d'appeler à la vigilance, mais de se former pour agir. Bonjour père Ausnet.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Vous êtes prêtre du diocèse du Mans. Qu'est-ce qui vous a incité à justement écrire ce livre et à vous manifester de la sorte?
Écoutez, j'ai eu une demande de la part d'un éditeur. Jusqu'à présent, je ne publiais pas sous la forme papier puisque j'ai un site internet occultismedanger.fr qui est bien fourni et donc je communique beaucoup sur ce sujet-là. J'ai une chaîne YouTube aussi, mais une demande a été faite pour un livre, donc je l'ai fait parce que effectivement, je crois qu'il faut informer et redire et que l'Église ait une parole sur ce point.
Qu'on n'entend pas assez?
Si, si, je vous entends bien.
Non, mais l'Église, on ne l'entend pas assez sur ce point.
Ah, excusez-moi. Non, parce que je pense que beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup de laïcs ne sont absolument pas au clair sur ces questions, qu'il y a beaucoup de confusion entre, par exemple, des charismes venant du Saint-Esprit et puis des pouvoirs occultes. Et donc, on se méprend et on pense que les pouvoirs occultes mis en œuvre sous la forme de conjuration, de brûlure, de magnétisme, guérisseur, sont des dons qui viennent de Dieu, sont des charismes qui viennent du Saint-Esprit. Et là, il y a une erreur fondamentale, une méprise, une confusion grave. Et il faut pouvoir le dire, je pense, pour que les gens soient clairs, parce qu'on constate les dégâts sur le terrain. Moi, ce qui m'a incité à avertir sans cesse depuis des années, c'est que les dégâts sont très importants au niveau des personnes qui acceptent, qui se compromettent avec des puissances ténébreuses par derrière.
À quoi les mesurez-vous, ces dégâts?
Alors, ces dégâts, ils sont visibles à travers... D'abord, un symptôme d'enfermement dans l'échec. Rien ne marche, tout va de travers, je n'arrive à rien dans ma vie. Et ça, sur une période, si vous voulez, qui n'est pas une période petite, mais une période assez étendue. Et donc, la personne se pose vraiment des questions. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup aujourd'hui une sorte de recrudescence de phénomènes paranormaux de toutes sortes qui font qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur vie souvent... marqué par des difficultés parasitantes qui les parasitent et qui leur pourrit la vie et qui proviennent des compromissions qu'ils ont eues avec le culte.
Et comment
on pourrait déceler aussi sur le plan spirituel à travers des stérilisations, on arrête de prier, on ne pratique plus les sacrements si toutefois on le faisait. Ou voilà, c'est aussi un des signes de l'impact occulte.
Vous estimez qu'une partie de la déchristianisation est attribuable à ce phénomène?
On pourrait le penser. Quand on a des enfants qui sont présentés au baptême et qui sont d'abord passés entre les mains du conjurateur pour qu'ils ne pleurent pas au moment de sortir les dents, quand on a des enfants au catéchisme qui déjà plusieurs fois ont eu des impacts occultes à cause de visites chez des magnétiseurs, chez des conjurateurs, on pourrait le penser. Ça joue probablement un rôle au niveau d'une sorte de fermeture spirituelle parce qu'il y a eu une ouverture vers le culte qui permet cette fermeture spirituelle.
Quand vous parlez de conjurateurs, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des personnes qui, sur le terrain, possèdent soit une petite formule magique qui leur a été transmise par leur famille ou par des amis, du genre « feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur ». Ils disent que c'est une prière, mais en fait c'est une formule magique et qui agit un petit peu comme un coup de sifflet pour appeler les esprits qui agissent immédiatement pour libérer la personne de la souffrance liée à la brûlure. Mais ça peut être aussi du magnétisme guérisseur qui est utilisé par la personne sans aucune formule magique et qui produit le même effet de libération de la souffrance liée à la brûlure. C'est ce que j'appelle la conjuration.
Mais le phénomène que vous décrivez, Père Osney, de se libérer de la brûlure, c'est quand même marginal, parce qu'on ne se brûle pas tous les matins, quand même.
On ne se brûle pas tous les matins, mais enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu recours à des conjurateurs pour des brûlures, pour des verrues, pour un zona, pour de l'eczéma, pour des radiothérapies, s'il vous plaît, maintenant, puisque dans certains services de médecine, on peut proposer le service de conjurateur. Donc c'est plus qu'on ne pense.
Donc vous estimez en fait ce qu'on appelle occultisme, ce qu'on regroupe sous ces pratiques, c'est quand même assez vaste et ça englobe des pratiques médicales ou pseudo-médicales, auxquelles les gens recourent sans savoir nécessairement qu'il y a une portée spirituelle.
Bien sûr, bien sûr. Il y a deux grands domaines où agit l'occultisme, c'est le domaine effectivement de la pseudo-guérison. Et puis le domaine de la pseudo-connaissance. Alors là, c'est les médiums, les voyants, la divination, le pendule, etc. Ce sont deux grands domaines où l'on fait appel à des esprits sans même le savoir, des esprits diaboliques par derrière qui agissent et qui donnent ce que l'on demande, soit une pseudo-guérison, soit une connaissance qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc c'est en fait très très répandu et ça peut se trouver effectivement en sous-couche, en tâche de fond, sous des pratiques de thérapie alternative par exemple, très très à la mode avec des noms ronflants aujourd'hui.
Mais le fait qu'il y ait quand même beaucoup de charlatans, d'imposteurs dans ces milieux-là, est-ce que ça ne discrédite pas justement l'occultisme ?
Malheureusement, on constate exactement l'inverse, c'est-à-dire que les statistiques qui sont données par les enquêtes qui sont faites sur le terrain montrent que malgré effectivement la présence de nombreux charlatans qui s'attachent tout à fait d'abord à notre portefeuille, beaucoup de gens continuent à consulter pour des pseudo-guérisons ou pour demander des lumières sur leur vie à venir, etc., etc. Enfin, ça a quand même un très gros rayonnement sur le terrain.
Et parmi les personnes que vous avez coutume de voir, est-ce qu'il y a des chrétiens, est-ce qu'il y a des personnes qui fréquentent à la fois l'Église et les milieux occultistes ?
Mais bien sûr, dans les personnes qui viennent frapper à la porte des services diocésains d'exorcisme, il y a des personnes qui sont effectivement chrétiennes pratiquantes, mais c'est le plus petit nombre. Il y a des personnes qui sont baptisées non catéchisées, de plus en plus nombreuses. Il y a des personnes qui ne sont pas baptisées ou il y a des personnes d'autres religions. Et le nombre de personnes baptisées qui émargent aussi à l'occulte, parce qu'elles n'ont pas les idées claires sur la toxicité des impacts occultes et de leurs conséquences, ce nombre est très important. Bien évidemment.
Et le fait d'aller voir un prêtre exorciste en soi, c'est déjà franchir la porte de l'Église.
Ah, bien sûr, c'est quelque chose qui est très coûteux, j'allais dire, au niveau de la démarche faite par des personnes qui se demandent à quelle sauce elles vont être mangées, mais qui le font parce qu'elles ont été voir de très nombreux praticiens de l'occulte auparavant, que ça n'a non seulement rien changé à leurs problèmes, mais ça a même empiré. Et donc, en dernier lieu, elles frappent à la porte de l'Église en allant voir l'exorciste pour demander de l'aide. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles sont possédées, mais ça veut dire qu'elles sont parasitées, qu'elles sont en état de liberté diminuée, parce que dans leur vie, elles ont ouvert la porte à des puissances occultes, à des puissances ténébreuses, et que celles-ci vont et viennent pour provoquer des dégâts dans leur propre vie, quoi.
Comment savez-vous, Père Osney, que derrière la pseudo-guérison ou la pseudo-connaissance, il y a des démons ?
Quand une personne vient frapper à la porte du service de l'exorcisme, on la laisse raconter son histoire, ses difficultés. Elle commence par là. Et puis, personnellement, je l'interroge sur ses compromissions occultes. C'est-à-dire, avez-vous consulté vous-même des magnétiseurs, des guérisseurs, êtes-vous allé voir des voyants, des médiums, vous faites-vous soigner par des médecines de type énergétique, etc. Et lorsque, effectivement, on met le doigt sur des compromissions majeures dans ces domaines-là, on peut légitimement penser que les dégâts dont les personnes se plaignent proviennent de ces compromissions. Et donc faire le lien entre les deux, si vous voulez. Il suffit pas de dire ben, ces personnes a des comportements bizarres, témoignent de phénomènes curieux, et donc elles en ont besoin d'un accompagnement psychologique ou psychiatrique. Peut-être qu'il faudra utiliser aussi ces moyens-là et ces outils-là à un autre niveau. Mais regardons au plan spirituel si la personne s'est compromise en se rendant dans des domaines qui sont ceux de l'occulte, quoi, et si les difficultés dont elle témoigne ne proviennent pas de là.
Et j'essaie de cerner ce que l'on entend par occulte. Hein. Quand vous dites, par exemple, les pratiques énergétiques, est-ce que, je ne sais pas moi, l'acupuncture, vous estimez que ça fait partie de l'occulte ?
Pas forcément, non. Cependant, l'acupuncture témoigne d'une anthropologie qui n'est plus la nôtre, qui est celle de l'anthropologie chinoise, qui est ce corps millefeuille où on travaille sur des corps subtils. Donc, et on va retrouver ça, si vous voulez, après, dans les personnes qui prétendent vous ouvrir les chakras ou faire une montée de la kundalini, etc. Enfin, un autre type d'anthropologie où aussi on peut avoir accès, on peut laisser libre cours à des puissances occultes qui travaillent, parce que la question du domaine énergétique, la question des énergies, c'est suffisamment flou et vague pour que ça puisse recouvrir n'importe quoi et aussi des actions diaboliques. Alors, c'est un domaine complexe, mais c'est de plus en plus présent sur le terrain.
Quelles sont les pratiques dont vous estimez qu'elles ne représentent pas de risque ?
Au plan des pseudothérapies ?
Oui, des pseudothérapies.
Ah, ça c'est très complexe comme réponse à donner, parce que si vous voulez le spectre est tellement large. Si vous prenez la kinésiologie, on est aussi dans une possible compromission avec la divination, etc. Si vous prenez l'hypnose, on livre les clés de sa maison à quelqu'un dont on ignore les véritables qualifications ou les qualités morales, etc. Enfin. Donc il faut au cas par cas faire une étude un petit peu sur les filiations dont se réclament ces méthodes, par qui ont-elles été fondées, quelle était la véritable qualité de la personne qui a fondé cette méthode-là. Et faut pouvoir faire des études un petit peu plus fouillées pour pouvoir répondre, mais au cas par cas. On peut pas donner une réponse très large et très qui n'aurait pas de validité.
Quelle différence y a-t-il entre l'infestation et la possession ?
Je ne sais pas si je parle comme ça, moi, personnellement. Mais
si vous l'écrivez, en tout cas.
Oui, une personne qui est parasitée, déjà, par des phénomènes paranormaux ou par vraiment une sorte de frein à main constamment observé dans sa propre vie, quoi. Ce n'est pas une personne qui est possédée. Si elle était possédée, lorsqu'on prie pour une libération des liens occultes, souvent, alors elle se met à rentrer en transe et à manifester une agitation qui n'est plus celle des conséquences de compromission occulte, mais celle d'une réelle possession où le démon a pu pénétrer à l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. Mais ça demeure difficile comme discernement. Je pense que c'est dans le dialogue et puis dans la prière avec la personne aussi qu'on peut s'apercevoir s'il y a plus qu'une infestation, comme vous disiez, mais une réelle possession. Ce qui n'est pas si fréquent que ça. Dans la quantité de personnes qu'on reçoit au service de diocésain d'exorcisme, c'est environ, je ne sais pas, 3-4% des cas des personnes reçues. Mais quand une personne...
Qui sont possédées, vous dites ?
Qui sont possédés, oui.
Mais c'est beaucoup.
Donc vous voyez, pas forcément.
3-4%, c'est beaucoup.
C'est vous qui dites.
Non.
Personnellement, je reçois 200 personnes par an assez régulièrement, donc ça représente moins de 10 personnes. Enfin. Mais une fois qu'on a enclenché, ou dans le diocèse, pour le diocèse du Mans, oui. Une fois qu'on a enclenché La démarche d'exorcisme, c'est quelque chose qui est un véritable cheminement. Ça ne se fait pas en une seule fois. Donc la personne va revenir plusieurs fois à un intervalle qu'on peut définir soi-même. Mais ça va être plus long qu'on ne le pense. Donc c'est plus coûteux, j'allais dire, en démarche oui. que les gens ne peuvent l'imaginer ou y pensent en termes de baguette magique.
Mais une précision, Père Osney, quand on est possédé, c'est donc un autre esprit qui manipule votre volonté, c'est-à-dire que votre responsabilité d'une certaine façon n'est pas engagée, vous subissez la possession. Est-ce que c'est
oui.
ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais la responsabilité, elle a été engagée dans les démarches qu'on a faites précédemment et qui aboutissent à cet état-là. À moins que l'état ne provienne de rituels de magie noire qui seraient accomplis dans des cadres d'autres cultures que les nôtres, peut-être, où ces choses-là sont employées très couramment dans les familles, etc. Enfin, et qui font que la personne se retrouve avec des impacts de magie noire dans sa propre vie, soit à cause de pratiques familiales antécédentes, soit à cause de ses propres demandes auprès de marabouts, de que sais-je. Enfin.
Que deviennent les personnes une fois que vous les avez exorcisées ?
Alors évidemment, dans l'Église catholique, on travaille en relation avec les curés de paroisse sur le terrain. Donc souvent, moi, je redescends au curé de la paroisse dont la personne est issue, quelques éléments lui permettant de lui dire « cette personne-là va venir te voir et il faut l'accueillir et l'aider, soit à faire par exemple une catéchèse complémentaire pour accéder à la première confession et la première communion, soit pour enclencher une démarche de catéchuménat pour aboutir au baptême adulte, soit pour revenir à une pratique dominicale, une pratique des sacrements. Donc on travaille en réseau sur le terrain avec les milieux paroissiaux, si vous voulez. Ce n'est pas au service de l'exorcisme à lui tout seul d'assumer...
Oui, mais est-ce que mécaniquement, Père Osney, est-ce que le fait d'avoir été libéré d'une présence maléfique vous rapproche de l'Église, fait de vous un fidèle ?
Ah ben non. Non, ça suppose... Non, mais dans le dialogue qu'on a avec les personnes reçues, on leur propose à chaque fois de bien considérer que le combat spirituel, donc une vie de prière assez fournie, importante, le combat spirituel fait partie de la cure, j'allais dire, dont ils ont besoin, et qu'ils ne peuvent pas estimer que la prière de libération qu'on vient de faire suffit. Il faut qu'ils mettent en place vraiment personnellement une vie de prière importante, notamment une prière de protection, en se plaçant sous la protection du précieux sang de Jésus. C'est quelque chose de tout simple, réclamer à Jésus une protection en raison des impacts occultes auxquels on a consenti. Et puis la récitation personnelle du chapelet quotidienne, parce que la Vierge Marie étant l'Immaculée, le démon ne peut pas sentir. Ça va de la planche au démon, c'est très important de mettre en place dans sa vie chrétienne la récitation quotidienne du chapelet avec la méditation des mystères. Au moins ces deux choses-là, puis également évidemment la communion eucharistique, dominicale, au moins une fois par semaine, très importante, parce que c'est vraiment la plus grande protection qu'on puisse avoir que de ne plus faire qu'un avec Jésus à travers la communion eucharistique.
Vous avez dit tout à l'heure, Père Osney, ce sera l'une de mes dernières questions, qu'il pouvait y avoir une confusion entre les dons de l'Esprit-Saint et puis les pratiques occultes. Enfin, j'entends dans la pratique, dans la manière dont le fidèle pouvait manquer de discernement. C'est une réalité que vous constatez ?
C'est extrêmement fréquent. Il y a une confusion entre des talents reçus à la naissance et développés, des charismes du Saint-Esprit et des pouvoirs occultes. Et c'est essentiellement dans le domaine de la pseudo-guérison que cette confusion se fait. C'est-à-dire qu'on considère que les magnétiseurs, les guérisseurs, les conjurateurs de brûlures, de zones, etc., sont des personnes qui ont des dons qui viennent de Dieu. D'autant plus, si vous voulez, qu'elles ont une sorte de décorum religieux dans leur propre logement, qu'elles prétendent donner aux gens des prières à faire, alors que souvent ce sont des trucs un peu bizarroïdes, ou dans des livres qui sont en fait des recueils de magie blanche, là encore. Enfin, je pense au livre de l'abbé Julio, par exemple, des vieilles petites églises. Donc il y a beaucoup, beaucoup de confusion parce qu'il n'y a aucune formation, il y a trop peu de formation sur ces questions-là. Je pense qu'au XIXe siècle, les évêques étaient beaucoup plus pugnaces sur les questions en rapport avec l'hypnose, avec le magnétisme, etc. Et aujourd'hui, on a très, très peu de paroles sur ces questions. Et il faudrait pouvoir y revenir et donner une formation plus large, quoi. Alors on le fait en allant quelquefois dans les séminaires pour proposer aux diacres qui vont être ordonnés prêtres des formations sur ces domaines-là. On le fait à travers des conférences publiques, on le fait à travers des publications, des vidéos, des émissions, comme c'est ce qu'on est en train de faire, mais il faut faire encore plus. Et il faudrait une parole de l'Église plus
affirmative.
Plus affirmative, oui.
Merci
il y a
beaucoup.
Dans le catéchisme de l'Église catholique des choses, mais il faudrait pouvoir faire plus.
Eh bien, c'est une des leçons justement de notre discussion, en faire davantage sur ce terrain. Puis je